100 000 images. C'est un travail qui est en train de se développer en ce moment, parce que jusque-là, il y avait d'une part des tirages papier et des diapositives qui sont dans des grands classeurs où on peut venir les voir sur demande. Et puis, il y a toute une partie immergée, je dirais, de l'iceberg, qui sont des quantités énormes de plaques de verre, de tirages. Il y a même d'anciennes, il y a quelques daguerrotypes, etc. Et il y a un travail qui est en train de se faire de numérisation depuis 2009, parce que le ministère de la Culture a lancé pour tous les musées et les établissements patrimoniaux et culturels, avec évidemment des moyens à la clé, des campagnes de numérisation. Et donc, il y a ce qui permet maintenant de faire sortir... Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait une connaissance, évidemment, au niveau du musée de ces plaques, mais qui restait très, très interne. Et petit à petit, cette numérisation permet de mettre à la disposition du public des images. Donc, par exemple, maintenant, il y a à peu près 8500 photos qui sont photos et objets, hein, parce qu'il y a d'un côté la photothèque et puis il y a aussi des documents, des objets. Donc, on peut regarder sur le site du musée d'Office Noir, et un site qui est un peu en construction, honnêtement. Pour l'instant, il y a ça. Il y a une deuxième tranche qui a commencé. Il y a une tranche 2009-2010. Je crois qu'il y a une deuxième tranche qui va être 2011-2012. Et puis ensuite, il y aura vraiment une refonte du site qui permettra d'avoir quelque chose de très large et où on peut consulter avec des mots-clés, etc. Comme ça commence maintenant dans pas mal d'institutions. Donc, c'est vrai que le choix était très, très large. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire quelque chose un peu plus large, un peu plus vaste autour de cette photothèque qu'on utilise de façon un petit peu comme ça ponctuelle. Et donc l'hiver, on s'est dit, tiens, l'hiver, oui, c'est la neige, c'est les activités aussi. On a joué, c'était pas très simple en fait d'aller chercher ça parce que il y en a trop quoi en fait, et donc le choix il est un petit peu subjectif aussi en fonction justement des choses qui pouvaient être scannées et déjà à disposition. Je vais faire très court juste pour dire que cette photothèque date en fait de Jean-Pierre Laurent. C'est Jean-Pierre Laurent qui était conservateur au musée dauphinois entre 1971 et 1986 qui a en fait commencé à voir l'intérêt des images, parce que jusque-là finalement les expositions c'était avant tout des objets. C'était ces fameux musées de brouettes, parce qu'il semblerait que Monsieur Malraux, lorsqu'il a inauguré le musée dauphinois en 68, aurait dit encore un musée de brouettes. Et donc, justement, ça n'était pas qu'un musée de brouettes. Et une des choses très importantes à côté des objets, ce sont aussi les images. Et donc, Jean-Pierre Laurent a commencé à vraiment beaucoup utiliser l'image dans ses expositions. Et était suivi après avec Charles Joysten, bien évidemment, les conservateurs Jean Guibal et Jean-Claude Duclos. Donc c'est une collection qui a pour base au départ beaucoup d'images, enfin beaucoup de, enfin c'est principalement évidemment des plaques de verre du fondateur du musée, donc Hippolyte Müller, qui a créé le musée en 1906 et dont les photos ont été déposées, données par ces, il y a à peu près 7000, si je ne dis pas de bêtises, il y a environ 7000 images qui font en gros la période 1900-1930, qui ont été données par ses enfants dans les années 70. Donc ça a été le premier fonds. Là-dessus, après, il y a eu beaucoup d'autres fonds qui se sont ajoutés, qui ont été soit achetés, beaucoup de donations, des fonds privés, qui sont des ensembles cohérents, des choses absolument pas du tout cohérentes par ailleurs. Il y a des, par exemple, tout simplement des albums de famille, mais qui finalement sont des tranches de vie et qui donnent beaucoup de choses, qui sont à la fois, il peut y avoir du paysage, il y a des gens au travail, il y a des gens dans les loisirs, etc., etc. Donc c'est très, très varié, il y a des collections de photographes même, et donc cette numérisation permet aussi, d'autant qu'on commence commence vraiment à travailler très sérieusement sur la photo. D'ailleurs, Isabelle Lazier, directrice du musée de l'Ancien Évêché, avait l'année dernière, c'était en 2009, je crois, fait une exposition sur les premiers photographes de l'Isère. Donc, il y a tout un travail qui est en train de se mettre en route, justement. Et la numérisation, c'est-à-dire la possibilité d'avoir, de feuilleter des plaques de verre, parce que, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les plaques de verre, il faut les sortir. C'est très compliqué. Donc, le fait de les avoir à disposition sur un écran permet maintenant d'avoir un travail beaucoup plus important et notamment un travail de documentation parce que je m'aperçois à chaque recherche que je fais que finalement il manque beaucoup, les renseignements manquent souvent. On sait en général qui est le photographe, mais pas toujours. Les dates sont des fois un peu douteuses. Et donc maintenant, le fait d'avoir toutes ces images ensemble, comme ça, vraiment un corpus important, permet par des recroisements, petit à petit, d'enrichir les renseignements et la documentation sur ces photos. Et puis de travailler aussi tout simplement sur l'aspect esthétique, parce que finalement, il y a d'un côté ce que ça dit, ce que ça raconte, et puis il y a en même temps un travail qui est un travail artistique. Donc voilà, il y a un grand travail qui est en train de se faire et qui va porter ses fruits dans les années à venir. Donc je vais essayer de faire vite. Alors... Ça marche comme ça, voilà, c'est parfait. Donc on va commencer, alors évidemment, au niveau de l'hiver, on pense forcément au ski et aux pratiques de neige. Donc ça, c'est une photo donc, d'Hippolyte Müller. C'était quand même, il y en a plusieurs, effectivement. Donc Hippolyte Müller qui est 1865-1933 et donc fondateur du musée dauphinois en 1906. Donc ça, par exemple, on ne sait pas exactement. On sait que c'est tout ce qu'on en dit, tout ce qu'on en trouve sur la base de données, c'est que c'est manifestement un concours de ski aux sapeurs en Chartreuse. Alors, et on ne sait même pas la date, c'est début XXe siècle, donc bon, on peut voir effectivement, quand on regarde les femmes, elles ont des jupes longues, donc c'est forcément avant la guerre de 14, donc c'est vraiment tout à fait les débuts du ski. Alors celle-ci, par contre, est mieux renseignée et il paraît que c'est le premier concours de ski. Alors par contre, je n'ai pas déterminé si c'était ski alpin ou nordique, parce que le ski nordique a évidemment une antériorité par rapport au ski alpin, qui a été développé quand même plus tardivement, et notamment au niveau des concours. Or là, c'est tout de même, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est marqué en 1906, il me semble, ce concours. Donc c'est aussi au Sapé en Chartreuse et organisé donc par la Société des alpinistes dauphinois qui avait été fondée en 1892 dans le but de rassembler, je cite parce que je trouve ça très joli, les artisans, les ouvriers attelés toute la semaine à l'ouvrage, les jeunes employés aux petites ressources et aux loisirs restreints, mais dont l'amour pour la montagne est grand. C'est un extrait du premier annuaire de la Société des alpinistes dauphinois. Donc oui, c'est vraiment les débuts du ski. Il y avait eu un premier concours international au Mont-Genèvre en février 1907, mais c'était du ski nordique. Et je rappelle quand même que c'est Henri Ferrand qui était venu s'installer à Grenoble en 1872 qui a apparemment introduit le ski en Dauphiné, même si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Enfin voilà, après avoir découvert ça par les Norvégiens, bien évidemment, et à l'exemple des Anglais qui ont été un petit peu plus rapides là-dessus. Alors, le fameux Hippolyte Müller se trouve à gauche du groupe. Donc, c'est le monsieur avec une espèce de tarte façon chasseur alpin. Et donc, c'est une promenade en raquette. Donc, à l'hiver 1906, au Charmançon, en Chartreuse. Donc, un des petits sommets de Chartreuse. Alors, encore une photo d'Hippolyte Müller, qui donc a vraiment balayé de façon très large. Parce qu'en fait, Hippolyte Müller, il était, je crois, horloger de formation. Après, il a travaillé... Non, il est bijoutier de formation, il travaillait pour un horloger. Et il a découvert la photo assez tard, vers 1900. Et il l'a tout de suite, comme il est devenu un archéologue, certes autodidacte, mais confirmé, réputé. Et puis, ethnologue, en fait... de surcroît, et donc il s'est tout de suite rendu compte de l'intérêt que pouvait avoir la photographie, donc l'aspect documentaire de la photographie, ce qui ne cache, n'enlève rien non plus à un certain nombre de l'intérêt aussi esthétique de certaines photos. Donc ça, c'est un café-restaurant, attendez que je ne dise pas de bêtises, parce que j'ai interverti des photos, donc je suis un peu mélangée. Le café Oga, qui est une commune de l'Isère, qui se trouve vers le col de l'Arzolier, un peu sous les Deux Sœurs, sous le balcon en fait du Vercors. Alors c'est assez près d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est au gars que se trouve cette fameuse fontaine ardente qu'on retrouve assez souvent dessinée dans des bouquins du 19e, toutes ces relations de voyage de Dauphiné du 19e siècle. Et donc c'est une poche de gaz qui s'enflamme et ça fait partie des fameuses sept merveilles du Dauphiné. Donc, bon, à l'époque, il y avait des cafés-restaurants partout, mais on peut imaginer aussi qu'il y avait peut-être plus de gens qui venaient, de touristes qui venaient pour voir cette fameuse merveille. Alors, ça, c'est encore une photo d'Hippolyte Müller. Et donc, c'est une famille d'orpières dans les Hautes-Alpes en 1911. Donc on ne sait pas qui est cette famille particulièrement. Alors justement, dans les collections, il y a beaucoup de portraits individuels et de groupes. Il y a énormément de portraits de groupes, et j'étais tombée sur cette photo que j'avais trouvée assez amusante, parce que justement elle était prise dehors et dans la neige, et c'est la seule que j'ai vue, je pense, dans tous les portraits. Alors ça, c'est assez amusant, parce qu'en général, il y a les familles bourgeoises d'ailleurs, l'endroit où il y a les portraits, c'est classé entre famille bourgeoise et famille rurale. C'est très classifié comme ça. Alors en général, les familles bourgeoises sont dans des intérieurs, très bourgeois bien évidemment. Il devait certainement y avoir des rafraîchissoirs d'ailleurs pour boire le Casanis. Ou autre boisson locale. Et les familles rurales sont en général plutôt à l'extérieur. Enfin, puis elles posent de façon, on sent que c'est vraiment la photo. On a demandé, ou un photographe vous a demandé, on en s'est mis dans les Amis du Dimanche. C'était assez touchant finalement. Alors, autre chose qui se passe en hiver, ce sont les fêtes. Il y a tout un ensemble de festivités. Nous avions d'ailleurs consacré un numéro, le numéro 10, aux fêtes d'hiver, parce que, évidemment, le cycle agraire, à partir, grosso modo, la fête des morts, le 1er novembre, on tombe dans l'hiver, les jours se raccourcissent. En plus, les paysans ont beaucoup plus de temps pour faire la fête. Et puis, il y a, évidemment, ce sont des fêtes d'origine païenne, dont la plupart, évidemment, comme d'habitude, et comme pour la plupart de toutes les fêtes religieuses, ont été récupérées par le catholicisme. Alors il y a d'abord les fêtes des morts, etc. Et puis après, on remonte la pente de la végétation. Et donc, il y a tout un ensemble de fêtes qui sont en général entre le 15 janvier et le 15 février, qui sont la Saint-Antoine, la Saint-Vincent, la Saint-Barnave, la Saint-Barnard, pardon, la Saint-Blaise, la Saint-Valentin aussi, qui est la fête des amoureux, il est évident que c'est une fête de la fertilité. Et donc dans ces fêtes, tout le village participe, mais notamment les jeunes, les conscrits. D'ailleurs, apparemment, il y avait beaucoup de mariages pendant l'hiver. Donc ça correspond à ce cycle de fertilité, de renouvellement de renouvellement des gens et renouvellement des grains, et etc. Et donc là, c'est à Plan de Baie, donc dans le Vercors drômois, en 1948. Et donc ça, c'est des conscrits, des jeunes qui sont déguisés. Et il y en a notamment un qui est déguisé en ours. Et l'ours a toujours aussi eu une... C'est Jean-Dominique Lajoux qui a écrit des choses là-dessus, sur l'importance de l'ours, justement, qui a un côté un peu humain, qui doit sortir à un moment donné. Il sort de sa caverne en février. Alors s'il sort, ça veut dire que l'hiver va être court. Et puis des fois, il rentre. Et alors là, on sait que l'hiver va être beaucoup plus long. Ça, c'est une autre image d'un carnaval sur la place Notre-Dame à Grenoble. Alors là, il n'y a pas non plus de date pour ça, mais il y a début du XXe siècle. C'est des jeunes filles qui sont quand même un peu en tenue un peu courte. On leur voit les jambes. Donc, à mon avis, c'est quand même plutôt vers les années 20 ou 30, je pense, parce qu'avant, je crois que ça n'aurait pas été très, très bien vu. Alors ici, c'est la montée Chalmont. C'est une très belle image de la montée Chalmont, qui est donc l'escalier qui monte au musée dauphinois, qui est installé donc dans l'ancien couvent de Sainte-Marie d'en haut, qui est un couvent baroque qui a fêté ses 400 ans, un couvent de Visitandine qui a fêté ses 400 ans en 2010. Et donc c'était un quartier assez populaire, en fait on voit le portail, mais toute cette partie là qui descend avec la rue Saint-Laurent, c'est un quartier très populaire, où il y avait énormément d'ailleurs d'immigrés italiens. Et ça, c'est une photo des frères Martinotto, lesquels frères Martinotto attendez, je retrouve plus mes images, mes choses, voilà, pardon, qui ont travaillé en fait depuis, enfin c'est une famille, hein, ils ont été, enfin c'est pas les frères, c'est pas deux frères, il y en a eu plusieurs, ça a duré de 1880 jusqu'aux années 1970, c'était des photographes professionnels et qui ont vraiment contribué à apporter, enfin ils ont apporté beaucoup de choses sur la mémoire visuelle de Grenoble et des environs, et il y avait eu justement une exposition au musée dauphinois consacrée au Martinotto, il y a quelques années. Et le musée, il y a eu des dons et des achats, et le musée conserve environ 4000 plaques de verre et négatifs, 2500 tirages originaux et 400 cartes postales qui avaient été produites et éditées par eux. C'était en 2002, l'exposition. On avait fait d'ailleurs un portfolio aussi, nous. Alors là, on passe à quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporain. C'est une photo de Roberto Neumiller, qui est un photographe qui est toujours vivant. Donc là, c'était un reportage. Alors ça a été, on ne sait pas exactement, c'est un achat, un dépôt. Même lui ne savait plus très bien dans quelles conditions c'était arrivé au musée dauphinois. Parce que par ailleurs, le musée dauphinois lui a fait des commandes, lui a acheté des images. Il y en a certaines qui ont été, qui ont servi aussi dans des expositions. Et là, celle-ci est la suivante d'ailleurs. Sont des images qui proviennent d'un reportage qu'il avait fait en fait pour VSD. Qui s'appelait l'Alerte Blanche, et donc ça date de 1980, enfin c'est aux alentours de... il ne savait plus vraiment, il pensait que c'était l'hiver 80-81, a priori, Roberto. Et je crois que c'était ça, il me semble, c'était un hiver particulièrement enneigé. Donc on voit effectivement... Et il a fait un très beau reportage sur les Roms, puisque c'est d'actualité, les Roms à Grenoble, qui se trouve effectivement un reportage qui est au musée dauphinois. Et donc ça, c'est une autre image de gens se rendant à la messe. Alors, on a un peu l'impression que c'est un enterrement. Est-ce que c'est un enterrement de personnes mortes dans une avalanche ? Ça, j'avoue que même lui ne s'en souvenait plus. Il est très belle, cette image, oui, au niveau esthétique. Alors, tant qu'on est dans les avalanches, donc ça, c'est une photo de Henri Ferrand, qui a été prise très exactement, vous voyez, c'est marqué en bas, il l'a noté lui-même, c'est une plaque de verre, la voiture du service du Glandon dans l'avalanche, 1er juillet 1906, à 11h30, donc 1er juillet, donc ça veut dire quand même que donc, c'est le col du Glandon, et donc ça veut dire tout de même que on voit comment le trafic entre les vallées, comme dans la vallée de Valorcine dont on nous parlait tout à l'heure par exemple, pouvait être bloqué, et on était même le 1er juillet donc après obligé, au lieu de déblayer l'avalanche, on faisait des couloirs en dessous. Et d'ailleurs Aimée Bigalet, dont nous avons cette institutrice aux étages, le raconte aussi. Elle raconte comment pour sortir du village, quand il y avait beaucoup d'avalanches, finalement la meilleure chose c'était qu'ils creusaient, les gens du village creusaient des passages sous les avalanches. Et Henri Ferrand est aussi quelqu'un de, alors 1853-1926, il est notamment président de la Société des touristes du Dauphiné, membre de la Société dauphinoise des amateurs photographes. Donc en fait, la plupart de ces photos sont déposées à la bibliothèque municipale de Grenoble, mais il y en a énormément aussi au musée dauphinois. Donc voilà, bon, bah, le déneigement, on a trouvé quand même des moyens plus faciles de faire ça maintenant. Et donc, avant, c'était souvent des grands traîneaux tirés par des... Enfin, une espèce de triangle, comme ça, traînés par des chevaux avec des gens dessus. Et ça, c'est une expérience qui a été faite avec un tracteur chenille le 9 avril 1923, au-dessus du sapin en Chartreuse, sur la route du col de Porte. Donc je ne sais pas, parce qu'il y a des installations de ski, donc est-ce qu'elles existaient déjà à l'époque, est-ce que c'était justement pour les rendre accessibles, c'est probable. Alors, ça, c'est une chose qu'on n'a plus bien l'occasion de voir, c'est-à-dire la débâcle et les glaçons sur l'Isère. Donc, c'est un pont, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, le grand pont qui mène à la Bastille. On voit là-bas la porte de France et puis le début des fortifications qui montent à la Bastille. Et donc, il y a ces gens qui se baladent. Donc, on n'a pas la date, en fait, de cette... donc, ça, c'est une photo qui est probablement due à Augustin Michel, qui était un photographe... dont le fonds a été racheté par un Serbe, Tomic, donc on s'est un peu mal renseigné. Par contre, j'ai vu plein d'autres photos sur les glaciations sur l'Isère qui dataient de plutôt 1905-1906, mais quand on y regarde de près, il y a deux dames ici, là. Et on voit que ces dames, d'abord, ont des jupes à mi-mollet et elles ont des chapeaux-cloches qui semblent beaucoup plus années 20. Enfin, c'est un peu l'impression que ça donne. Donc, je pense que c'est un petit peu plus récent. Donc, je dirais les années 20, quelque chose comme ça. Alors ça, elle est très mignonne. C'est une photo justement qui est extraite d'un album photographique qui a été donné et où il y avait même... écrit en dessous un Esquimau murois de Lamur, évidemment, d'où vient la famille, c'est la famille du docteur Mazurik, qui a donc de Lamur en Matésine, donc dans l'Isère, au sud de l'Isère, qui les a offerts au musée dauphinois en 2001. Voilà, les joies de l'hiver. Alors, ça, c'est une photo dont on ne connaît pas la date, mais qui est une photo d'un saut à ski, donc c'est dans le Vercors, à Autran. Et elle provient d'un curé, le curé Chabrier, qui était curé d'Autran pendant très longtemps, qui est mort en 1985, qui lui-même a fait énormément de photos et a documenté. Et donc, il y a énormément de photos du docteur Chabrier, mais plus récentes. Mais comme il était aussi collectionneur, donc ça doit probablement, enfin, d'après ce que j'avais, ça venait de lui. Donc, il a dû collectionner. On ne sait pas qui est le photographe. Et je trouve que ça a un côté assez contemporain, finalement, ce flou et cette... l'objectif tourné vers les regards, surtout les enfants, qui regardent ça complètement émerveillés, ce ski comme ça qui arrive au début du XXe siècle et qui devient quelque chose maintenant tellement habituel et qui était vraiment une nouveauté impressionnante à l'époque. Alors ça, c'est trois enfants. Ces trois enfants, dont un est apparemment toujours vivant, c'est celui qui est à droite, celui de droite. Voilà, c'est Maurice Mouchet, né en 1917. Et puis les deux frères, Oronce et Gustave Raffin, lui aussi né en 1917, qui a été l'ancien maire de Pinceau, donc c'est près d'Alvar en fait. Et c'était, on voit très bien les gamins se rendre à l'école à ski. Alors c'était peut-être plus facile pour descendre, après il fallait remonter. Maintenant ça fait longtemps que c'est fini tout ça. Alors, encore une photo de ce cher Hippolyte Müller. Ça, c'est dans le Queyras, c'est à Saint-Véran. Donc, on connaît la plus haute commune d'Europe à plus de 2000 mètres d'altitude. Et c'est un espèce de conservatoire. Enfin, on pourrait considérer que Saint-Véran est une sorte de conservatoire alpin et sur lequel, justement, le musée dauphinois et la collection du musée dauphinois a énormément de choses parce que... et Hippolyte Müller, qui avait l'intention depuis longtemps s'y rendre et qui s'est rendu pour la première fois en avril 1917, y est revenu énormément. Et puis, les autres conservateurs, dont Charles Justen, ont beaucoup travaillé sur Saint-Véran, qui a gardé des traditions et un mode de vie, et aussi ils ont fait beaucoup de tous ces coffres ouvragés, etc. Donc on trouve beaucoup de choses sur Saint-Véran au musée dauphinois. Et en images, donc voilà, la dure vie des femmes. Et une autre du même genre. Alors là, c'est juste à côté de Valorcine, mais du côté Chamonix, tout à fait en haut de la vallée de Chamonix, pratiquement sous le col des Montets, en fait, à Montroc, les Frasserans. C'est un endroit que je connais bien et où j'ai été d'ailleurs bien bloquée par la neige aussi. Je peux vous dire que c'est pas... c'est mon pays, c'est l'hiver, mais alors des fois, quand il y en a trop, ça va. Et il n'y a quand même pas si longtemps que ça. Donc ça, c'est une photo dont on ne connaît ni l'auteur, ni la date. Et donc, que peut-être les recherches et les travaux qui vont se faire permettront d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Voilà, mais c'était quand même... un peu rude à l'époque. Alors, on revient sur Grenoble. Donc, celle-ci, c'est une photo de Muller, à nouveau. C'est le jardin de ville en hiver, avec donc les quais et une partie des fortifications, sans date aussi, pareil. Encore Muller. Alors, ça, c'est Auris-en-Oisan, le village d'Auris-en-Oisan. Ce que je trouve intéressant par contre au niveau de la neige, alors ça par contre on voit la façon dont la neige souligne ces champs en terrasse et ces petits murets encore plus qu'en été, c'est vraiment très impressionnant, et ce village qui est concentré comme ça sur lui-même pour aussi échapper à ces coulées d'avalanche, et c'est la même chose, j'en reviens toujours à cette institutrice qui raconte justement les coulées d'avalanche qui passent, qui frisent les côtés des maisons, et d'ailleurs dans le prochain numéro, il y a un article de René Favier sur les avalanches au XVIIe et XVIIIe siècle et sur la façon dont les gens étaient tentaient de s'en protéger, dont ils étaient évidemment à certains moments, comme partout, il y a des avalanches qui tombent, pendant 100 ans ça ne tombe pas, et puis un jour il y a un phénomène météorologique qui fait qu'elles tombent à cet endroit-là, et donc il y avait quand même des dégâts, il y avait quand même des morts. Et donc, il se plaignait beaucoup auprès du roi, justement, pour qu'on les dédommage de tout ça. Donc, je vous renvoie à cet article de René Favier. Là, c'est encore du Muller. Donc, quand même, pour vous dire que Muller est important dans la collection, même si c'est loin d'être le seul. Et c'est le col de la Croix-Perrin, qui se trouve entre Autran et Lens-en-Vercors, dans le Vercors, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est une photo qui a été prise le 15 mars 1914. Donc, vous voyez, certaines sont très bien documentées, d'autres nettement moins. Alors ça, c'est une... c'est un luge. Là, il n'y a pas grand-chose. C'est une photo de ce qu'on appelle le fond Boissieu. Boissieu était un photographe, était un pharmacien, pardon. Un pharmacien à Grenoble qui a lui-même pris des photos, mais qui en a collectionné aussi pas mal, qui a fait beaucoup de choses sur les petits métiers aussi, les petits métiers de la rue, les petits métiers. Voilà, donc ça, je pense que c'est une photo posée. Est-ce que c'est sa famille ? On ne sait pas très bien, mais enfin bon, à côté du ski, il y avait la luge aussi. Et c'est vers 1910, disait la légende. Et ça, c'est, j'aime beaucoup ce portrait de famille qui est noté fond Muller. Donc, on ne sait pas si c'est lui le photographe ou si c'est quelque chose qu'il a récupéré. J'ai presque fini, voilà. A priori, c'est un poilu qui est venu voir sa famille. Alors là, c'est une photo plus récente, c'est vers 1938 d'un certain monsieur Bonneteau, je ne sais pas du tout qui c'est, et ça évoque évidemment le ski joring qui a été une grande pratique au début du XXe siècle, c'est un terme norvégien, de se faire tirer par des chevaux plutôt, et là, on ne sait pas exactement quelles sont les circonstances, et c'est quelque chose d'ailleurs, j'ai lu récemment, qui revenait en vogue, on se fait tirer par des chevaux, et ça devient très, très à la mode. Il paraît même qu'on fait des compétitions de ski joring maintenant. Là, bon, c'est un autre concours de ski à Autran en 1920. Il provient du fonds Eugène Fousset, qui était un photographe professionnel dans les années 30, entre les années 30 et 50, et qui a racheté le fonds de Gustave Audou. Donc, ça vient probablement du fonds. Et donc, ça fait partie de ces fonds qu'on appelle Audou, qui était un créateur de cartes postales. Il y a énormément de cartes postales signées Audou, Fousset Audou, qui représentent quelque chose de très important. Le fonds a été donné dans les années 1970 et il comprend environ 2500 images. Et alors là, l'hiver, c'est l'extérieur. Ça peut être l'intérieur aussi, bien évidemment. Donc, on termine par l'intérieur. Ça, c'est pratiquement un reportage qui a été effectué en novembre 1979 par Charles Joysten, donc qui a été conservateur au musée dauphinois entre 1968 et 1981. Et donc, chez les frères Philippe, qui sont deux frères. Alors, je n'ai pas trouvé vraiment d'informations dessus, mais alors, c'est quand même très parlant. Parce qu'on voit très bien alors vraiment c'est une espèce de grotte donc avec ces enfin, on pense que c'est plus ou moins enterré parce qu'il y en a où on voit la fenêtre qui est vraiment au niveau du sol avec ces voûtes un peu presque en plein cintre mais il y a une photo par exemple qui montre un placard, alors il y a le placard ouvert comme ça avec un espèce de, mais des monceaux de on ne sait pas très bien ce que c'est des vêtements, c'est des chiffons, c'est, et alors il y en a, on voit des poules aussi, parce que c'est manifestement un sol en terre battue, il y a des poules qui se baladent partout, là-bas je crois que c'est le lit, alors le lit est couvert, il y a des journaux, il y a d'autres photos, on voit des bouteilles partout, enfin... Je pense que tout le monde a connu, même dans les années 50, des vieux paysans qui vivaient un petit peu dans ces conditions, qui ramassaient tout, qui mettaient tout. Et bon, c'est aussi une façon de se tenir chaud. D'ailleurs, plus c'est à l'étroit et qui se chauffait encore de cette façon-là. Et donc, pour terminer, bon, c'est une photo sans gens, mais avec les vaches, qui a été prise, c'est une photo de Charles Joysten encore, qui a été prise donc, à Saint-Martin-de-Belleville, en Savoie, dans la Tarentaise. Et qui date, a priori, il n'y a pas vraiment de date, mais on pense que ça peut être les années 60-70, vu qu'elle est prise par Charles Joysten. Et donc, qui montre très bien cette cohabitation entre l'étable, donc la chambre étable, entre l'étable et le logement des paysans, enfin des gens, et qui permet effectivement de donner de la chaleur. Et je dois dire que personnellement, j'ai vu ça, j'y croyais pas, mais j'ai vu ça, ça devait être en 70, je crois, quelque chose comme ça, du côté italien du Col Agnel, dans un petit village qui s'appelle Pontechianale, et c'était en sous-sol, comme ça, et je me suis promenée, à un moment donné, j'ai vu ça, il y avait effectivement les gens, ils étaient en train de manger comme ça, et il y avait à côté les vaches, et donc c'était, alors maintenant, le Pontechianale est devenu un petit truc très, il y a des gîtes partout, c'est très, très chic, très touristique, mais donc je pense que ça a perduré quand même assez longtemps. Voilà, et c'était une des façons de se chauffer quand on n'avait pas assez de bois, et notamment dans les communes qui étaient assez hautes, qui, et puis le bois, finalement, le bois était tellement utilisé pour les constructions qu'il y a eu un moment où voilà, il y a eu les grebons aussi, les bouses de vaches et ainsi de suite. Bon, et bien voilà, je termine ce morceau de patrimoine. Et donc, nous allons donner la suite à Isabelle Lazier pour nous parler de l'exposition du peintre chinois He Yifu, qui est actuellement en présentation au musée de l'Ancien Évêché, et dont nous avons évidemment un article dans le prochain numéro. Merci de votre attention.
Eh bien, bonjour et merci pour votre patience. Et j'imagine que ces présentations successives vous ont déjà largement parlé des Alpes sous la neige. Ce qui me donne l'occasion peut-être de vous présenter une autre vision des Alpes à travers le travail d'un peintre chinois qui s'appelle He Yifu, et que nous présentons actuellement à l'Ancien Évêché. Donc, les images que je vais vous présenter sont en fait les images présentées dans le cadre d'une exposition temporaire présentée à Grenoble, au musée de l'Ancien Évêché, qui s'appelle « Le voyage d'un peintre chinois dans les Alpes ». Donc, une autre manière de découvrir les paysages alpins, pas forcément l'hiver. He Yifu a peint un peu des paysages d'hiver, mais pas uniquement, mais plutôt l'idée de vous offrir une promenade dans les différents paysages alpins. Alors, He Yifu, c'est un peintre chinois contemporain qui est décédé récemment, en 2008, qui est originaire d'une province du sud-ouest de la Chine, Kunming, et qui est arrivé en France dans les années 1992. Il était en Chine enseignant professeur de peinture et de calligraphie, enseignant à l'Institut des arts des beaux-arts du Yunnan, dont il est devenu directeur. Et en fait, il arrive à Paris en 1990 pour développer un travail personnel d'abstraction poétique, parce que toute sa vie de jeune Chinois formé à la peinture occidentale et à la peinture chinoise a été nourri aussi de références à l'art moderne occidental, et il vient en France pour développer son travail d'abstraction poétique personnelle. En fait, il galère un peu, je ne crois pas qu'on puisse dire autrement, à Paris, et puis ses pas l'emmènent à Rennes, où il s'installe. À Rennes, Rennes est une ville où il y a un accueil favorable, une ouverture à la culture chinoise. On enseigne le chinois dans les collèges et dans les lycées et à l'université. Il y a des instituts chinois et des associations qui enseignent la peinture et la calligraphie. Reifu arrive à Rennes pour enseigner la peinture et la calligraphie et rencontre les éditions Ouest France. Et ils ont l'idée, en fait, de renouveler le regard sur le paysage breton en commandant à Reifu, les éditions Ouest France, un album de vues pittoresques, je dirais, sur la Bretagne, réalisé par un peintre chinois et donc avec une manière chinoise inscrite dans la tradition chinoise du paysage de peindre ces côtes bretonnes. Donc ce premier album édité chez Ouest France a reçu un succès considérable avec 70 000 exemplaires vendus du livre. Et Ouest France poursuit cette aventure avec Reifu, d'abord à Paris, après les côtes bretonnes à Paris et ensuite dans les Alpes. Et il arrive dans les Alpes dans les années 80. Il débute son travail dans les années 2006-2007 après Paris. Donc c'est un travail de commande qu'il réalise. Les éditions Ouest France lui passent la réalisation, la commande d'un ouvrage. Album de vues pittoresques, regard sur les sommets prestigieux, emblématiques des Alpes. Dans un parcours qui lui est défini, un itinéraire qui lui est défini, donc qui le conduit depuis la Méditerranée au Léman. Donc voilà, je vous ai mis quelques images de cet album pour vous montrer en fait l'esprit de ces vues alpines. Hein. Ce n'est pas une création de l'artiste, mais des points de vue quand même qui marchent, qui sont inscrits dans les pas des touristes contemporains. Donc on retrouve aussi l'esprit des albums de lithographie et de gravure des siècles passés. Donc voilà, on reconnaît une vue prise à Nice, Monaco, les gorges du Verdon. Ici, vous avez le rocher de Sisteron, ici Mont Dauphin, Saint-Véran et l'église de Saint-Véran et les sommets, la route de Comble-Laval en Vercors, le Mont Aiguille, encore un petit bout des gorges du Verdon avec Saint-André-les-Alpes et Moustier-Sainte-Marie. Et le voyage de ce peintre chinois et ses 62 vues s'achève en fait sur une vue du Mont Cervin qui restera malheureusement un travail inabouti, puisque l'artiste décède avant d'avoir fini son travail de peinture. Dans ce petit parcours en images de ces vues alpines où vous allez voir de la neige, mais pas que, pour mieux les comprendre, en fait, il faut que je vous fasse une rapide introduction à la peinture de paysage chinois. En fait, la peinture de paysage chinois n'est pas strictement parlée de la peinture de paysage, mais littéralement de la peinture de montagne et d'eau, la peinture de San Shui, la peinture telle que l'appellent les Chinois. Donc, pour comprendre cette peinture chinoise, il faut déjà sortir de la tête tous nos codes de représentation très imprégnés de la peinture de paysage réaliste telle que nous l'avons connue, telle qu'elle s'est exprimée, on va dire, jusqu'à l'arrivée de l'art moderne, jusqu'au début du XXe siècle, et telle qu'elle a vécu plusieurs siècles durant, entre le XVe et le XIXe siècle. Donc, je vous ai mis côte à côte ces deux images. Ce ne sont pas du tout les mêmes lieux, même si c'est le même massif, deux montagnes prises en chartreuse. Ici, c'est le Néron, vu de Provézieux, la montagne de Provézieux. Et ici, c'est ce qu'on appelle la Suifière, qui est juste au-dessus de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Donc, deux visions totalement différentes. ici, tout ce que vous n'avez pas dans les deux œuvres, voilà, la peinture occidentale, c'est une perspective, une composition géométrique, c'est une vraie présence du premier plan, c'est un travail sur la lumière, l'ombre, le soleil, c'est un travail sur le réalisme de la représentation, sur les détails des éléments du motif, l'herbe, les toits, les arbres, le rocher, la présence de l'herbe, de la montagne, etc. Et c'est dans ce cadre-là et principalement aussi un travail de peinture souvent réalisé sur le motif de peinture à l'huile. La peinture chinoise de paysage, c'est une tradition très très ancienne que l'on fait remonter au VIe siècle de notre ère. En fait, la peinture chinoise de paysage en fait, s'attache à la tradition de la calligraphie et plus ancienne que ça, mais les premières œuvres commentées datent du VIe siècle. Donc c'est une tradition très ancienne avec une technique totalement différente et un point de vue totalement différent de la peinture de paysage occidentale. On va le découvrir à travers les œuvres. Ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que c'est un travail d'encre de Chine et d'aquarelle chinoise. Je dis bien aquarelle chinoise puisque l'aquarelle européenne n'est pas tout à fait la même. Sur papier de riz, qui n'est pas du papier de riz, mais un autre papier, mais on y reviendra après. L'artiste chinois ne réalise pas son travail sur le motif. Il fait des croquis, il va sur le paysage, il va sur les lieux de son travail, bien sûr, face au paysage. Il réalise des croquis, voire il prend des photographies et c'est de retour dans son atelier, penché sur sa table, puisque en fait, il travaille à l'encre sur le papier de riz, donc penché sur sa table, qu'il réalise sa peinture. Son tableau. Donc un tout autre rapport à la création et à la réalisation et à la technique. Donc le propos du peintre chinois n'est pas du tout de rendre le réalisme d'un paysage. C'est pas du tout son intérêt, c'est d'en rendre plutôt l'essence. Et pour ceux qui connaissent Saint-Pierre de Chartreuse, c'est une vue qui est prise effectivement de Saint-Pierre de Chartreuse, mais vous repérerez ce principe de l'ensemble des vues que vous allez voir de montagne dans la séquence, qui est de dire de l'artiste, c'est de s'imprégner de l'essence des lieux et des sentiments et des émotions ressenties devant ces paysages. Voilà, première image du parcours. J'ai pris dans cet album de 62 vues, vous n'en avez que 40 qui sont présentées au musée de l'Ancien Évêché, pas mal de vues savoyardes, mais quand même j'ai voulu démarrer en Dauphiné par cette vue du glacier de l'Homme qui est prise du col du Lautaret. Donc pour ceux qui reconnaissent, on voit un petit bout de l'hôtel du Lautaret. Donc pour cette peinture... l'idée, c'est quand même de vous dire que cette peinture chinoise du paysage, cette peinture de montagne et d'eau, Shan Shui, s'attache à témoigner non pas de la réalité physique d'un paysage, mais plutôt de son essence, telle que l'exprime la pensée taoïste. Le paysage, dans la pensée taoïste, est pensé comme une réplique du cosmos, un microcosme animé par le qi, je crois qu'on dit chi même, ce souffle vital, cette énergie qui parcourt l'espace et les choses. Donc face à ce paysage en fait assez grandiose, hein, quand on arrive depuis Briançon au col du Lautaret, c'est vrai qu'on est confronté à ce glacier qui appartient au massif de la neige, assez grandiose, mais que l'artiste ici triche complètement dans sa représentation et dans sa perspective pour montrer, finalement, pour esquisser le sentiment qu'il a eu devant ce paysage d'espace grandiose, de montagnes inaccessibles avec des sommets qui se cachent dans les brumes. Autre particularité de la peinture chinoise de paysage et du travail de Ri Fu, qui est très imprégné de la tradition chinoise, mais pas que, on le verra après, c'est le travail sur les formats. Là, vous avez une œuvre que vous allez retrouver dans le prochain numéro de l'Alpe, dans un cahier dépliant, pensé par l'équipe de l'Alpe et par Pascal. Donc là, c'est un panorama pris du lac Lérier sur le massif de la Mège. Donc c'est un grand format, c'est un format rouleau, tel que les aiment, tel que les ont pratiqués, tel que les pratiquent encore les peintres chinois. Dans l'histoire de la peinture chinoise de paysage, les premiers peintures de paysage ont été des panoramas peints sur des rouleaux verticaux ou horizontaux. Et ces rouleaux étaient destinés à être pliés, rangés, sortis à l'occasion de fêtes ou de manifestations particulières. Et les rouleaux qui pouvaient atteindre des longueurs ou des hauteurs très longues, 5-6 mètres, cette peinture a été pensée pour être exposée, donc elle est encadrée, mais cette peinture fait 2 mètres de long, donc c'est un grand panorama, en fait, était destinée à être dépliée, déroulée progressivement, et on lit le paysage se lit sur les peintures chinoises de droite à gauche. Donc l'intérêt de ces formats rouleaux, c'est que, détachés de toute contingence de perspectives géométriques et de compositions telles que nous pouvons l'imaginer, occidentaux, les peintres chinois peuvent rendre sur une peinture à l'horizontale ou à la verticale, on le verra ensuite, eh bien des paysages que l'œil ne peut percevoir d'un seul regard, ni d'ailleurs le peintre dans un format de composition classique. Donc un paysage, c'est forcément un paysage qui est animé par le souffle et l'énergie. Et la convention dans cette peinture chinoise pour exprimer ce souffle, cette énergie qui anime les êtres et les choses, c'est ces effets de brume. Enfin, des effets de brume, qui sont soit des effets de brume, soit des effets de souffle, qui sont traités en ce qu'on appelle les réserves lacunaires, c'est-à-dire en absence de peinture. Donc, c'est-à-dire, c'est la couleur du papier. Donc, cette brume, dans ce point de vue pris du lac Lérier, est à la fois pour traduire l'énergie et le souffle qui traverse et qui anime ce paysage et qui monte vers les sommets, mais aussi pour distinguer les plans. Ce lac Lérier, en fait, au premier plan, vous voyez qu'il y a des vaguelettes sur les eaux. En fait, est séparé du massif de la Mège par la vallée de la Romanche. Et ces plans successifs sont suggérés ici par ce déroulement de ce rideau de brume. Donc derrière, le jeu sur la neige, c'est un jeu de montagne, de relief esquissé. La neige, les glaciers, ce sont des camaïeux de gris, de blanc, d'aquarelle blanche. Donc pour ceux qui connaissent un peu le panorama, on part du glacier de la Girose, le râteau, évidemment, les sommets grandioses qui ne se laissent deviner. Par là, vous avez ici vous avez la brèche de la Mège et ici le massif de la Mège. Moustier-Sainte-Marie, on y reviendra tout à l'heure, mais une peinture chinoise de montagne et d'eau ne saurait être complète sans la présence de la signature de l'artiste, de son sceau et souvent d'un colophon, une inscription apportée sur la peinture et calligraphiée avec différents styles sur la peinture. Donc, je vous traduis ce que Ray Yifu a écrit sur son œuvre. Il dit « Insolite, beau, hallucinant, Moustier-Sainte-Marie est aussi un lieu angoissant, plongé dans un mystère insondable. » Vous êtes là dans un format de rouleau vertical, avec une manière chinoise de rendre compte de la puissance du paysage. C'est une vue prise à vol d'oiseau, on ne peut pas dire les choses autrement, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de donner avoir le paysage pris dans son ensemble, avec un effet de contraste entre la partie de la gorge noire et profonde. Pour ceux qui connaissent Moussier-Sainte-Marie, c'est vrai qu'on reconnaît tout de suite le paysage. En réalité, on ne le voit pas du tout comme ça, avec un œil de promeneur. Mais c'est de rendre la puissance de ce cirque rocheux et de ce village qui se déploie le long de la montagne jusqu'à ce petit prieuré. Donc, il a évacué la chaîne qui relie d'ailleurs cette grande chaîne avec une étoile qui relie les deux falaises pour laisser s'exprimer cette énergie, ce souffle et cet insondable mystère de l'univers et du cosmos qui se déploie derrière ce lieu angoissant. Donc voilà, l'opposition des couleurs, la couleur sombre, le yin et le yang vers la couleur claire. Pour Saint-Maurice, alors ça c'est un paysage très chinois. Alors je ne connais pas suffisamment Bourg Saint-Maurice pour savoir si on reconnaît les lieux. Peut-être que vous pourriez me le dire, vous, de manière plus explicite. C'est très chinois pour deux raisons. Dans la peinture chinoise de paysage, il y a deux grands genres artistiques qui se côtoient, enfin l'un ayant quand même pris le pas sur l'autre. C'est d'une part la peinture à l'encre monochrome, à l'encre de Chine monochrome, qui est un art raffiné du trait, qui est l'art de l'épure, où on va à l'essentiel. Et puis un autre genre pictural qui est la peinture dite en vert et bleu, qui emploie, elle, les couleurs. Donc Rei Yifu, dans cette composition, mélange un peu ces deux styles avec le travail du trait, donc sur ces falaises. On reviendra aussi sur le travail, sur l'art du trait qui marque quand même la peinture chinoise. Et puis la peinture dite en vert et bleu à travers ces espaces évoqués par la végétation et l'environnement. Et puis là-haut, tout là-haut, des pèlerins, ces petits pèlerins chinois qui... Enfin, chinois, pas du tout. Savoyard qui arrive sur le sommet de cette falaise. Donc toujours rendre l'idée de la puissance et de l'incroyable de l'incroyable petitesse de l'homme par rapport à la force qui est une toute petite chose dans le cosmos. Voilà, Rei Yifu est certes un peintre, un artiste qui est un peintre lettré, hein, qui maîtrise totalement la calligraphie mais aussi la poésie, mais qui a été très inspiré, nourri aussi de la tradition occidentale du paysage. Donc, Mont-Dauphin, c'est une fortification dans les Alpes et quand on va à Mont-Dauphin, qu'est-ce qu'on admire ? On admire les toitures, l'architecture militaire, Vauban, enfin ce site somptueux inscrit, j'allais dire, au patrimoine mondial de l'humanité. Voilà, et Rei Yifu, quand il passe à Mont-Dauphin, la forteresse l'intéresse peu. Et d'ailleurs, dans tout ce travail, si vous avez l'occasion de venir le voir au musée ou même de consulter l'ouvrage, vous verrez que tout ce qui est réalisation humaine, village, architecture, etc., le dérange beaucoup, parce que dans la peinture de montagnes et d'eau, donc de paysages chinois, on ne s'intéresse pas au village, enfin aux traces laissées par l'homme, sinon en tout petit. Donc, alors en fait, dans la réalité, les couleurs sont beaucoup plus contrastées. Peut-être que mes originaux ne sont pas de très bonnes couleurs, mais vous avez ici donc la forteresse de Mont-Dauphin, rigide, noire, froide. Et puis là, les deux vallées. Mont-Dauphin, c'est à la confluence de la vallée du Guil, qui conduit vers le Queyras. Si on voit le Guil avec les eaux surlignées, qui bougent. Bien sûr, il y a du courant, forcément, il y a du courant, il y a de l'énergie. Et puis, et avec la vallée du Guil, je continue, et la vallée de la Durance qui descend de Briançon. Donc là, vous êtes en position un peu surélevée pour avoir une ouverture assez extraordinaire sur cette vallée du Guil et sur les deux versants de la montagne qui se trouvent l'une au coucher du soleil. En fait, la peinture est extrêmement rouge de ce côté-là pour désigner le soleil couchant, et bleu ici, ce qui fait un contraste et une opposition des couleurs. On est là dans le jeu des oppositions qui créent l'harmonie, chère aux impressionnistes, et c'est dans cet esprit-là que effectivement Ri Yifou a composé cette œuvre, en combinant à la fois un regard inspiré de sa tradition, mais aussi un travail sur la couleur nourri de références à l'art occidental. Voilà encore ce colophon. Donc ce colophon, c'est... alors, je vous rappelle que les œuvres sont exécutées en atelier hein, et pas sur le motif. Donc c'est une pensée, une poésie qui traverse l'artiste lorsque celui-ci est devant son paysage. Et donc chaque calligraphie est différente. Il y a 5 grands genres de calligraphie chinoise. Donc, le calligraphe, l'artiste utilise une calligraphie qui aussi correspond à son sentiment. Voilà. Alors là, c'est une calligraphie en Xingshu. Ne m'en demandez pas trop. Voilà. Servière, un paysage de... Je vous prie de m'excuser. Je vais peut-être le coincer comme ça. Voilà. Alors, un paysage de neige. Servière, dans le peu que j'ai découvert de la peinture chinoise, les peintres chinois ne peignent pas des paysages de neige. D'ailleurs, pas plus que les peintres paysagistes occidentaux, enfin, à quelques exceptions près. Jusqu'au début du 19e, jusqu'à la fin du 19e siècle. Voilà, mais quand même, Ri Yifou est passé dans les Alpes à 3 saisons, été, automne, hiver, et, enfin, 3 saisons à cheval. Il est venu à 3 reprises, mais a vécu les 4 saisons, on va dire. Et voilà ce paysage de neige pris à Servières. Donc la neige, il voit pas du tout la neige comme un manteau qui étouffe tout. Il voit ce paysage de neige comme un temps dans la vie et dans le calendrier qui n'empêche pas à la nature, au paysage et à la vie de s'exprimer. Donc voilà, la neige traitée en aquarelle blanche, du mouvement, toujours ce souffle et cette énergie qui traverse le paysage, qui s'exprime dans l'eau. Vous voyez le torrent dont les traits soulignent le mouvement des eaux, et puis cette énergie qui se déploie dans ce second plan et dans ce vallon qui est en arrière du torrent. Et puis quand on regarde la peinture de près, on voit aussi que toute cette végétation qui devrait être un peu engloutie dans le silence et l'effet de solitude que donne ce panorama, en fait tout ça bouge énormément. Alors dans cette peinture, vous avez 3 sceaux, une aquarelle chinoise, enfin une encre de Chine et aquarelle chinoise. Un paysage chinois ne saurait être complet sans une calligraphie sur ou à côté de l'œuvre et sans la mise en place de sceaux qui parachèvent une œuvre. Alors ce sont toujours des sceaux, des tampons à l'encre rouge, hein. Et alors, chaque artiste a des multitudes de sceaux, de tampons. Et sur cette œuvre, Ri Yifou en a posé 3. Alors, je ne peux pas vous les traduire, malheureusement, tous, sauf un. Donc, voilà les deux signatures de l'artiste. Les Chinois ont beaucoup de noms. Et Ri Yifou n'y fait pas exception. Donc, est-ce que c'est son nom d'atelier? Est-ce que c'est son nom d'artiste? Est-ce que c'est son nom de... Voilà. Donc, 2 signatures d'artiste ici. Et Ri Yifou, pour authentifier son travail, a fait réaliser un tampon du mot Alpes que vous retrouvez ici. Voilà, donc vous pouvez me croire, ce tampon signifie Alpes. Donc c'est une très grande douceur, hein, même s'il y a du mouvement et de l'harmonie, il y a une très grande douceur dans cette peinture. Vincent Dierre, à Maud-Bessant. Alors là, on est chez vous. Donc, une concession quand même au caractère pittoresque de cet album, c'est quand même que Rieffou s'est attaché à dépeindre ce beau hameau traditionnel avec une attention particulière portée aux toitures en lauze qui sont assez bien restituées. Et puis cette pelouse verte qui désigne le printemps. Quant à la montagne, elle est exactement vue par un peintre chinois, c'est-à-dire que cette force de ce massif imposant, eh bien, il naît du vide, il naît du chaos dans la pensée taoïste. Tout naît du vide et du chaos, et à travers ces effets toujours de brume qui sont traitées en réserve lacunaire, eh bien, émerge cet immense massif qui est à peine esquissé, à peine suggéré par des taches de couleur claire. Voilà, il y a une très grande puissance, une grande hauteur, voilà, avec finalement une grande économie de moyens. Le col de l'Iseran. Voilà, un art consommé pour construire des plans, pas de perspective géométrique, mais une perspective bien sûr suggérée à l'œil par souvent des jeux de composition de plans successifs marqués par des jeux d'emploi de couleurs différentes, du plus clair au plus foncé ou l'inverse d'ailleurs. Cette peinture du col de l'Iseran me donne l'occasion de vous dire que la peinture chinoise, c'est aussi l'art du trait. La peinture de paysage est née de la calligraphie, et là, on le voit particulièrement bien, avec un emploi et un art raffiné de l'emploi du trait, plus ou moins épais, plus ou moins un trait vertical, un trait horizontal, des traits obliques, plus ou moins fins, plus ou moins épais, des traits entremêlés qui expriment en fait le relief, la pente des rochers, voire les accidents de rochers, qui expriment aussi la dureté ou la couleur des rochers. C'est presque graphique parfois ces peintures. Donc voilà. Et puis toujours les crêtes les hauteurs qui se laissent jamais deviner. Vous verrez jamais de peinture chinoise avec beaucoup de ciel derrière les montagnes. On a toujours l'impression que les montagnes vont dans des hauteurs qu'on ne maîtrise pas. Le col de la Galise à Val d'Isère. Alors je ne connais pas cet endroit. La peinture chinoise de montagne et d'eau, l'eau pour les Chinois, c'est l'eau, la neige, la brume, c'est un même univers. Et vous retrouvez dans cette peinture, ça me fait beaucoup penser à la peinture de Rieffou des côtes océanes, qui exprime exactement le même travail et le même sentiment, ces eaux qui bougent avec ces traits à l'encre plus ou moins sèche du pinceau, ces taches aussi. Vous verrez dans la peinture chinoise, il y a beaucoup de taches petites ou plus grosses qui marquent l'espace et qui permet aussi de créer visuellement à l'œil du relief, et toujours ce contraste entre le noir et le blanc de la neige et des eaux, le noir des rochers, le yin et le yang. Chartreuse du Reposoir, en Haute-Savoie, un paysage en vert et bleu. Voilà, c'est vraiment un paysage vraiment inscrit dans cette tradition, donc avec une composition en S. Alors le S, c'est le passage de l'énergie, donc on démarre toujours par la droite. J'ai oublié de vous dire, mais une calligraphie se lit par la droite. verticalement, enfin, etc. Donc voilà, ce paysage où passe l'énergie avec cette composition en S, cette énergie vitale en fait qui traverse, qu'on devine passer derrière les montagnes et revenir, reprendre son trajet. Voilà, cette montagne en vert et bleu, un art consommé de cet usage de la couleur. Vous reconnaissez la chartreuse peut-être du reposoir, donc dans cet espace un peu vert, un peu froid, l'exemple de la grande chartreuse et le chemin du pèlerin qui conduit jusqu'au monastère. Donc ces grands aplats de couleurs, ces paysages en vert et bleu, il faut vous imaginer des couleurs un peu violentes, hein, du bleu azurite, du vert malachite. Enfin, c'est vraiment un travail très très fort dans le rendu coloré. Saint-Gervais-les-Bains. Alors, je ne sais pas si... Alors, je suis allée sur Internet regarder les images de Saint-Gervais, de la station de Saint-Gervais. Alors, ici, évidemment, la seule chose qui nous raccroche à Saint-Gervais-les-Bains, c'est peut-être l'église avec ses deux clochers, le grand clocher, le clocheton au-dessus de la nef. Mais voilà, c'est une image encore, une vue à vol d'oiseau. Exit la station thermale, le pittoresque, les rues, etc. Exit la station de ski, les montagnes aménagées pour un travail sur un paysage réinventé qui exprime la période à laquelle le paysage est fait aussi. Alors toujours ce travail sur l'énergie, hein, qui se déplace dans ces paysages. Vous ne le voyez pas très bien, mais en fait c'est très jaune là. C'est sans doute un paysage d'automne. Et puis les montagnes qui surmontent Saint-Gervais. Et puis les proportions tout à fait personnelles, enfin tout à fait sensibles de cet arbre du premier plan. En fait, les peintres chinois accordent assez peu d'importance à l'exactitude des feuillages. Quand on voit des arbres, souvent on se demande s'il s'agit de feuillus ou d'épineux, peu importe, c'est plus leur couleur, leur volume, leur présence qui retient l'attention de Ri Yifu et des peintres chinois en général. Voilà, alors évidemment, Ri Yifu est allé se promener sur les bords du Mont Blanc. Voilà, une vue prise du grand balcon nord. Il a réalisé de très belles œuvres, de très belles encres de Chine à l'aquarelle sur le Mont Blanc. Malheureusement, on n'a pas pu les présenter puisqu'elles ont été, soit elles sont retournées en Chine lorsque l'artiste est décédé, soit elles ont été vendues. Donc il nous en reste quelques-unes. Ri Yifu a été très très impressionné par ce Mont Blanc. Il a fait les sentiers balcons. Et là, j'ai choisi cette œuvre toujours pour vous traduire l'impression et l'image que l'artiste veut traduire de la montagne. Pour lui, la montagne est inaccessible, se cache. D'abord, lorsqu'il peint, le beau temps ne l'intéresse pas. Il aime mieux les temps intermédiaires, avant l'orage, après l'orage, les brumes d'automne, etc., qui rendent mieux des effets atmosphériques. Et voilà, j'aime beaucoup ce travail qu'il a fait sur la pelouse d'altitude avec ses affleurements de rochers qui sont traités avec des petites traces, des petites touches de pinceau, pardon. Qui évoque une peau un peu parcheminée. Alors, Ri Yifu, une vue du Mont Blanc et du glacier des Bossons. Alors, c'est évoque beaucoup son travail d'abstraction chinoise qu'il a réalisé. Alors, je ne vous présente pas en détail la peinture, enfin, pour dire quand même que y a une très forte intensité dramatique dans cette peinture du glacier des Bossons, avec ses grands coups de pinceau noir, voilà, et puis ce ciel tourmenté, et puis là derrière le glacier et le Mont Blanc qui bien sûr ne se laisse pas saisir, quoi. Voilà, dernière œuvre et j'en aurais presque fini. Le cirque du fer à cheval, donc Alors, un paysage extraordinaire, hein, sur lequel il s'est bien sûr rendu. C'est quand même un site pittoresque et touristique essentiel dans le parcours des Alpes. Voilà, alors grâce à la magie du pinceau chinois et à la manière chinoise de peindre un paysage, on peut, comme à l'exemple du panorama de la Meije, embrasser d'un seul coup d'œil un cirque de montagne. Donc, voilà, si le caractère de conque, de courbe a disparu dans cette peinture du cirque, en fait, Reifu nous offre, par un écrasement de la perspective et un redressement des sommets, une vision très intime de ce cirque qui, positionné où le petit voyageur chinois, où le petit voyageur peut être, c'est-à-dire ici, ne se révèle pas du tout au regard de cette manière. Donc un travail sur la couleur, hein, avec un jeu de camaïeux de vert, aussi bien pour les prairies du premier plan que pour la végétation et la forêt qui se déploient sur les falaises qui précèdent le cirque et qui donc marquent les plans successifs de la composition. Toujours cette brume et cette circulation de l'énergie, hein, qui passe derrière la montagne et qui revient comme ça. Cette présence des eaux et de la puissance des eaux dont les flots se dissolvent dans les chutes vertigineuses, les hauts plateaux et puis derrière les sommets d'arrière-plan qui marquent les cimes des hauts sommets alpins. C'est un paysage qui fait encore, qui est donc au format rouleau, 2 mètres de long et qui permet peut-être de découvrir et de comprendre cette montagne finalement comme si on le découvrait pour la première fois. C'est un paysage qu'on reconnaît tout à fait, bien sûr, et pourtant qui n'est pas du tout celui présenté. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous invite, si le sujet vous a intéressé, à venir voir l'exposition au Musée de l'Ancien Évêché à Grenoble et à découvrir le prochain numéro de l'Alpe avec un cahier spécial, je peux dire comme ça, Pascal, voilà, consacré au travail de ce voyage d'un artiste chinois dans les Alpes. Voilà, je vous remercie.
Merci Isabelle de nous avoir fait découvrir ce regard très singulier sur les Alpes. Moi, je rêverais de faire un numéro de l'Alpe qui serait entièrement bâti sur des regards étrangers, insolites, des regards de l'ailleurs, avec un géographe togolais, un historien brésilien, que sais-je encore, un ethnologue russe. Ce serait assez intéressant de voir quel regard portent ces gens-là sur les Alpes. Un jour, peut-être réussira-t-on à en faire un numéro de l'Alpe avec ça. Ton exposition, Isabelle, se déroule jusqu'à fin mars, ça ? 29 février. Donc, surtout, ne la ratez pas. C'est vraiment très, très impressionnant. Et c'est évidemment, la technique et les projecteurs, etc., ne rendent pas justice aux qualités des œuvres qui sont exposées au Musée de l'Ancien Évêché. L'entrée est libre. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Et voilà ce regard singulier. On va poursuivre avec un autre regard et finalement on revient sur nos fondamentaux de l'hiver. C'est au fond quel regard portent les visiteurs de nos Alpes sur les Alpes. Et c'est Isabelle Frochot qui va nous en parler au travers d'une enquête qu'elle a menée auprès de nos touristes des stations de sport d'hiver.
Très bien, merci. Bonjour à tous. Je suis consciente du temps, donc je vais essayer peut-être de passer rapidement sur une audio diapositive et de passer à l'essentiel. Les résultats que je vous présente aujourd'hui sont issus d'une étude qui a été réalisée pour le compte de Savoie-Mont-Blanc Tourisme par des chercheurs du CEMAGREF et l'Institut de Management de l'Université de Savoie, les deux principales chercheuses étant moi-même, Isabelle Frochot et Dominique Crésiac. Nous sommes des chercheurs en gestion, comportement du consommateur. Et l'Institut de Management de l'Université de Savoie a un département spécialisé en tourisme depuis de nombreuses années, dans lequel nous officions en tant que chercheuses et bien sûr qu'enseignantes. Avant de vous présenter les résultats, je vais vous faire un très bref rappel sur le comportement touristique que finalement beaucoup d'entre nous connaissons mal parce qu'il est très très particulier. Après, je vais vous détailler très rapidement la méthodologie pour passer bien sûr très vite aux résultats. Donc, je vais zapper la première diapositive. Alors, le plus important à comprendre chez un touriste, c'est de comprendre d'où il vient avant même de comprendre ce qu'il recherche à la destination. Alors, on dit que la motivation touristique et le comportement est motivé par deux aspects. Le plus important, à la limite, étant le premier, c'est à savoir ce que l'on veut quitter. Et c'est ce qu'on appelle les facteurs push en anglais, c'est ce qui vous pousse. Et puis, on a dans un deuxième temps des destinations qui vont avoir des atouts qui vont faire qu'on va choisir telle destination plutôt qu'une autre. Alors, les facteurs push, je vais revenir un peu dessus parce qu'on va voir que dans le cadre de la montagne, ils sont très, très importants. Donc avant même de penser voyage, découverte, recherche peut-être d'une autre culture ou d'autres paysages, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vit tous dans des sociétés assez prenantes, avec des rythmes de vie assez stressants, et qu'un touriste, quand il cherche à partir, il cherche surtout à couper un peu cet univers quotidien qu'il trouve de plus en plus pesant, et à faire un contrepoids avec un quotidien qui est pesant et en même temps frustrant. Donc, on considère que la consommation touristique, c'est un exutoire à une vie quotidienne qui est vécue comme étant trop pesante. Donc, comme je l'ai dit, couper avec sa routine, couper avec son stress, aussi couper tout simplement parfois avec ses rythmes quotidiens. Ne plus avoir à se lever à 7 heures, ne plus avoir à prendre le métro de telle heure ou le train de telle heure, etc. Oublier le travail et donner du temps au temps. Par exemple, on sait que de plus en plus, les touristes expriment le besoin de passer du temps de qualité avec sa famille, ne serait-ce que par des moments très simples, moment que finalement on a de plus en plus de mal à trouver dans sa vie au quotidien. Après les facteurs pull, c'est dans un deuxième temps ce qui va attirer les touristes vers une destination. Donc on va voir que là aussi la montagne a des spécificités qui lui sont tout à fait propres, incontournables et inégalables, ce qui est d'ailleurs un de ses principaux avantages. Alors, quand on part en vacances, on a, je ne vais pas les détailler, mais différents objectifs qu'on peut chercher à réaliser, que ce soit l'épanouissement intellectuel, l'épanouissement physique, ça peut être la rencontre de nouvelles cultures, etc. Là-dessus, on a une panoplie de motivations qui peuvent s'exprimer. Et puis, comme je l'ai dit, ça peut être aussi tout simplement rattraper du temps perdu, être enfin ensemble. Alors, vous connaissez peut-être les 3 R, rupture, ressourcement, retrouvailles, qui avaient été très détaillées dans le carnet de route de la montagne qui avait été publié dans les années 2000. Ça résume parfaitement le comportement touristique à l'heure actuelle et je pense d'une manière générale, c'est-à-dire que ce qu'on cherche avant tout, c'est une rupture. On va partir en vacances pour se ressourcer, recharger ses batteries, se reposer et passer du temps ensemble. Alors ensemble, comme je l'ai dit, famille, amis ou avec des gens qu'on rencontre sur place. Alors, un deuxième rappel très rapidement, la consommation touristique, elle s'appréhende de façon très différente d'autres consommations. On n'est pas du tout dans les mêmes états d'esprit, dans les mêmes modes de fonctionnement que quand, par exemple, vous achetez un bien fonctionnel ou quand vous allez chercher des prestations bancaires ou autres. Hein. Donc, on est dans une consommation qui est parfois très difficile à cerner parce qu'elle repose sur des bases très émotionnelles et que c'est une évocation très personnelle de soi-même. Donc, en fait, dans la consommation touristique, on est surtout sur ce qu'on appelle de l'expérience. Et il y a beaucoup de recherches qui sont menées à l'heure actuelle sur ce sujet. Je pense qu'on a encore de nombreuses années de recherche dans ce domaine parce qu'on a encore beaucoup de mal à le cerner, à le définir et surtout à le mesurer. Il faut aussi comprendre que des vacances, c'est une expérience de longue durée avec des services multiples. Et donc, quand vous vous adressez à un touriste sur une période d'une semaine ou deux semaines, il ne va pas tout retenir. En fait, il va faire une évaluation qui est relativement globale et forcément approximative. Il va aller à l'essentiel et il va retenir l'essentiel. Une des raisons à ce mécanisme, c'est le fait que quand on est en vacances, alors je l'ai mis entre parenthèses, on ne veut pas se prendre la tête. C'est vraiment typiquement l'expression que les touristes utilisent. Si on est venu en vacances, c'est justement pour plus être loin, pour s'éloigner de ces stress, pour ne plus avoir des prises de tête au quotidien et des stress qu'on cherche justement à ne plus avoir. Donc on se rend compte, quand on interroge des touristes, que finalement, ils ne prêtent pas attention à certains détails qui pourtant dans la vie quotidienne les agaceraient. Donc on est dans un autre état d'esprit quand on est en vacances. Ça, c'est la citation d'un touriste qu'on a rencontré parmi tant d'autres. Moi, dans l'ensemble, je suis en vacances, donc c'est la détente assurée. Donc, je ne vais pas me prendre la tête avec quoi que ce soit. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Et puis un dernier petit point de détail qui a son importance quand même, c'est qu'un touriste qui arrive dans une station ne connaît pas le fonctionnement des stations. Donc il n'est pas capable de discerner qui est exactement responsable du déneigement de la route, du damage des pistes, de l'information de l'office du tourisme, etc. Donc en fait, il va souvent parler de la station d'une façon très globale et il ne va pas avoir les connaissances que nous avons localement sur ces stations. Alors, l'objectif que nous avons mené, une étude que nous avons menée en 2009, avait pour objectif d'étudier ce qu'on appelle l'expérience donc, des touristes en station de montagne, comment ils vivent leurs vacances, comment ils vivent la station, quelles activités sont pratiquées, comment la montagne est-elle perçue, c'est un sujet particulièrement intéressant, quelle différence entre l'hiver et l'été, malheureusement aujourd'hui je n'aurai pas le temps de l'élaborer, et puis étudier bien sûr les particularités des vacances en montagne, hein. On parle de la concurrence du soleil, on parle de la concurrence d'autres destinations, c'est vrai qu'il n'est pas particulièrement important de comprendre quels sont les atouts, les points forts de la montagne, le meilleur positionnement adopté, et puis bien sûr les particularités qu'on peut mettre en avant. Alors, comment on procède pour ce genre d'études ? Tout ce qui est du domaine de l'expérience relève davantage d'études qu'on qualifie de qualitatives, c'est-à-dire qu'on a été aborder les touristes en station, toujours en fin de semaine pour être sûr qu'ils aient consommé, qu'ils soient restés plusieurs jours dans les stations, avec ce qu'on appelle un guide d'entretien, c'est une trame de questions. Et dans le cadre de cette étude, on l'a laissée volontairement très ouverte. C'est-à-dire que ce sont surtout les touristes qui ont mené, on va dire, la collecte de données. Et on ne les a pas forcés à aller dans certaines directions. On voulait que l'essentiel émane d'eux. Ces entretiens, ils durent en moyenne un quart d'heure, 20 minutes. Hein, donc on est les pieds dans la neige avec un enregistreur et avec des touristes très, très coopératifs. Beaucoup plus que si on faisait une enquête en ville, ce qui est fantastique parce qu'on arrive à collecter énormément d'informations. Trois chercheurs qui ont enquêté, donc un troisième dont je n'ai pas parlé précédemment, Hugues François, qui est chercheur au CEMAGREF. Échantillon, alors là, je vous donne l'échantillon, l'étude globale. Hein. 100 touristes interrogés à chaque saison. On était dans 4 stations de montagne. On avait choisi des stations relativement différentes pour essayer d'avoir une bonne vision de la façon dont les touristes peuvent consommer différents types de sites.